Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je me rappelle ces premiers pas où, quand on a commencé à marcher, juste suivre le chameau, t'as l'impression de marcher sur une femme. Tu comprends que la terre, c'est une femme. Tu vois que ses courbes, ses rondeurs, le moindre petit pas de scarabée, t'as l'impression que c'est une broderie sur le sable. T'as le vent qui te parle. Enfin, c'est vrai que tu comprends qu'il y a Dieu partout. Quoi que tu mettes derrière ce mot, il y a du souffle, il y a de la présence.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximusca et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-morts à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour, Estelle Meyer, nous fait voyager du théâtre au ciné en incarnant une samouraï, une pharaonne ou bien une princesse des fées. Dans la série 10%, elle nous offre la meilleure technique pour frauder le métro en se faisant passer pour une touriste espagnole. Dans la vie, son énergie positive et sa voix enchantée est capable de calmer les plus angoissés. Mais avant qu'Estelle Meyer nous raconte ses aventures et nous fasse voyager dans son monde étoilé, bonjour Marie.
Bonjour.
Comment ça va Marie? T'enchaînes en ce moment Marie?
Ah bah moi je suis partout, à droite, à gauche, j'enchaîne. Là j'ai pas eu de week-end et j'en aurai pas avant longtemps.
T'étais avec un petit tournage là?
Oui, j'avais un petit tournage pour un projet qui s'appelle Comment tu dates, des vidéos sur mon compte Instagram, ça va être trop chouette.
Trop de voir ça. Et donc bonjour Estelle Meyer.
Bonjour, merci pour cette trop belle présentation, même moi j'ai déjà un petit peu voyagé.
C'est vrai?
C'est ravissant, merci.
Est-ce que t'es prête à nous faire voyager? Parce que
j'espère humblement vous faire un petit peu rêver.
Bon, bah ça va être un peu ton boulot aujourd'hui.
Tout à fait.
Alors bon, il faut que je sois honnête. Alors je t'ai vu qu'une seule fois sur scène, mais tu n'étais pas sur scène. J'ai vu dans une pièce de théâtre, mais tu n'étais pas dans le...
Voilà. J'étais partout.
Mais j'ai quand même l'impression de te connaître beaucoup depuis. Donc,
trop joli.
Ouais, on peut expliquer parce que...
Mon frère François De Breuer, qui fait la voix du générique, est un grand ami d'Estelle.
Ah oui, c'est vrai qu'il fait le générique, c'est lui qui fait le...
Il fait le générique de Tourista. Avec sa douce voix, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Rencontre avec une illuminée ». Et il raconte, en fait, c'est à moitié autobiographique, et il rencontre son amitié avec Estelle. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Stella, qui est très, très, très inspiré d'Estelle, notre invitée aujourd'hui. « Rencontre avec une illuminée », c'est à partir du 3 mars au Théâtre du Puy Saint-Martin.
Franchement, c'est sublime.
Ouais, c'est vrai, c'est exceptionnel.
J'en prends pas mal pour mon grade. Je pense que vous rirez pas mal après cette émission de le voir en vrai.
Mais c'est vrai que du coup, j'ai un peu là, parce qu'il est très, très fort pour rejouer des personnes. J'ai l'impression de te connaître un petit peu. Et ce que j'en ai conclu, c'était que j'ai l'impression que tu vis dans le même monde que nous, mais que tu le vois un peu différemment de nous. C'est-à-dire avec un filtre un peu... On n'a pas le même filtre, quoi. C'est mon premier avis que j'ai comme ça. Et c'est pourquoi, en général, ce que je demande au début aux invités, c'est qu'ils se présentent en anglais, comme si on était dans une auberge de jeunesse.
Je parle très très mal anglais.
C'est pour ça.
Ok, très bien.
Regarde la pirouette que je vais faire. En général, je demande ce que les gens se présentent, parce qu'en fait, on voulait retrouver l'ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro, tu vois. Donc je vois qu'elle flippe. Alors, heureusement que j'ai trouvé.
C'est très très bien. Peut-être je vais mettre un petit peu d'espagnol également.
C'est pour ça. Mais ce que je voudrais, c'est que au lieu qu'on soit dans une auberge de jeunesse, je voudrais que tu choisisses le lieu dans lequel nous allons voyager et discuter aujourd'hui. Est-ce que c'est une tente berbère peut-être, ou alors autre chose? Alors raconte-nous, alors on va où aujourd'hui, on s'installe où pour ce Tourista?
Alors écoute, pour ce Tourista, on est dans le désert, on est entouré de grandes dunes très féminines comme des très beaux seins ronds. Il y a un ciel vraiment bleu clin, tu vois, un bleu pigmenté assez ardent. Il y a des étoiles, mais on est en plein jour. Et il y a des vieux rois et des grandes reines qui nous attendent au cœur d'une tente berbère. Il y a quelques lions et il y a un feu chaud et bon qui ronronne. Il y a une petite théière qui commence à crépiter, à clapoter. Ça sent la menthe. Il y a un pain qui se cuit comme ça dans la cendre sous le sable. et il fait bon vivre. Et peut-être le temps s'arrête et on se dit qu'on pourra se raconter les grands fondements de l'humanité et apprendre un petit peu mieux à vivre dans l'heure qui vient.
Wow. Je ne veux plus retourner dans l'auberge de jeunesse. Hein. Maintenant, on fait tous les touristas ici. Hein.
Oui.
Est-ce que ça te dit de te présenter dans la langue que tu veux
ou D'accord.
Ça te dit
ça me va très bien.
Vitesse, comme si tu rencontrais des gens en voyage que tu ne connaisses pas. Tu vois, genre, comment tu te présentes?
Bonjour, hola, qué tal? Hola, hola. Bonjour, je peux être un petit peu en français, mais dans ma propre langue française.
Tout ce que tu veux.
Ben, je m'appelle Estelle, ça veut dire étoile. Mon deuxième nom, c'est Geneviève, ça m'a fait longtemps assez chier. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était le nom de ma grand-mère, qu'on appelait Nouna. Et un jour, j'avais dit, putain, Geneviève, ce prénom de vieille, elle avait dit, tu sais que c'est quand même mon prénom.
Aïe.
Donc c'était un petit début sympa. Et en fait, jusqu'à ce que j'en découvre l'étymologie, quand j'ai fait un cercle de femmes avec des femmes, et l'étymologie du prénom Geneviève, ça veut dire femme accoucheuse. Une femme qui accouche, ou femme de haute noblesse, de race, ou je sais pas trop quoi. Et j'ai aimé ce côté accoucheuse d'autres femmes. Enfin, justement, je comprenais ma grand-mère, et c'est comme si j'avais eu tout d'un coup un petit cadeau posthume de poupée russe, où elle-même m'avait engendrée. On dit aussi qu'on est dans le ventre de notre grand-mère, vu que quand ta mame, par exemple, est dans le ventre de sa propre mère, il y a déjà son système reproductif qui est prêt. Donc en fait, t'es déjà là.
Ah ouais.
Donc il y a un côté, je sais pas.
La filiation comme ça.
La filiation vers le haut et vers le bas. Donc je me dis que ouais, on a toutes les générations emboîtées les unes dans les autres, qui s'attendent, qui s'espèrent. Et du coup, voilà, maintenant j'aime bien ce deuxième prénom comme une petite protection de cette grand-mère que j'aimais tant. Je fais du théâtre. Quand j'étais petite, on me disait elle est charmante, mais on l'entend pas. Et après, toute ma vie, on m'a dit, vous pouvez baisser un peu le volume. Donc, c'était voilà, des choses un petit peu, des volumes un petit peu aléatoires. Je suis bélier comme Marie, ça nous a toujours beaucoup rapprochés. Donc, je pense qu'on n'a pas peur de commencer. En même temps, on en a peur, mais on commence en tout cas. On se lance bravement. Oh, je pense qu'on est courageuse. Je mets Marie complètement dans l'eau pour me sentir moins seule dans cette présentation. Je pense que des fois, on est assez pénible. Pardon Marie, là, je vais vraiment, elle a peut-être ras le bol d'être dans ma présentation. Je suis la troisième d'une fratrie de quatre. J'ai grandi vers Melun, Fontainebleau, dans la forêt. J'avais un jardin, j'avais un arbre dans mon jardin qui s'appelait Morgane. C'était une femme arbre. Je lui racontais beaucoup de choses. Ce que raconte François dans Rencontre avec une illuminée, c'est vrai. À 6 ans, j'ai un moucheron qui s'est noyé dans mon bain. Je l'ai très mal vécu. Je me suis fait beaucoup de soucis et j'ai pleuré longtemps. Comme si ouais, la peau était un peu trop fine, trop exposée au vent, à l'émotion. Alors du coup, je pense aussi d'où cette grande sensibilité. Un besoin de sublimation, de merveilleux, de magie, de rituel, de rendre le monde plus doux pour y vivre. Voilà.
Trop bien.
Franchement, c'est pas mal. Quand je demande aux gens de se présenter en français, ça change tout. Hein. Enfin, c'est
en anglais. C'est... Hello, I'm Estelle Meyer.
Ça aurait été peut-être un petit peu plus limité en anglais.
C'était incroyable. Alors moi aussi, je pense mon deuxième prénom, c'est Jefferson, parce que mon papy, c'est Jeff.
Ouais.
Alors est-ce que dans le ventre,
ouais.
Dans le ventre de sa mère, est-ce que j'étais déjà là?
Eh ben,
oui. Les spermatozoïdes, ils se renouvellent peut-être.
Ah, c'est une bonne question. Ouais, bah, ça, faut réfléchir. Ouais. Il faut réviser.
Bon, on verra ça plus
en
tard.
En tout cas, Jefferson. Il faut savoir que sur mon téléphone, il y a pas marqué Maxime Muscat. Il y a marqué Jefferson Muscat. Pour
c'est
cette
beau.
Raison.
Bisous, papy Belette. 91 ans hier. Bref. Alors normalement, je demande ensuite. Aux gens de nous raconter leur rapport au voyage. Est-ce que tu peux nous raconter ton rapport au voyage en quelques mots
Écoute, mon rapport au voyage, c'est marrant, j'ai envie de te raconter un autre truc de ma bio. Quand j'étais ado, j'étais assez furieuse et déchaînée et ingérable. Et, enfin, tu vois, dans cette espèce de douceur de l'enfance, il y a eu quelque chose qui a eu besoin de péter beaucoup les murs et les cadres, et j'avais une grande colère, comme si les choses devaient se réveiller. Et ma mère, je trouve que j'ai eu des parents qui étaient intelligents, voyant qu'ils ne pouvaient pas forcément gérer le taureau. Ils ont demandé à des relais. J'ai eu un peu une deuxième maman, qui était une plasticienne, qui était aussi déchaînée, et qui m'a donné courage en me disant, mais vas-y, invente la vie que tu veux. Et ma mère m'avait proposé de faire un travail spirituel, parce que c'est vrai que ça va prendre peut-être une grande dimension dans ce tourista, et d'en rencontrer avec une illuminée. Elle m'avait proposé de faire un travail avec un frère carme, et le mec travaillait sur le rapport... Alors attends, comment présenter ça, trop taros.
Qu'est-ce qu'un frère carme?
Un carmélite, un carme. Okay. Donc c'est une confrérie des chrétiens, mais c'est des moines.
Okay.
Et donc les carmes, je ne saurais pas expliquer la finesse de ça, mais ils travaillaient sur l'aspect féminin de la divinité.
Okay.
Et de la fécondité du monde. Et il travaillait avec les contes de fées, etc. Et pour lui, notamment, il travaillait avec... je sais pas, des adolescents notamment beaucoup, et sur ce qui était endormi en nous, et si tu avais le bon nom, donc on revient au prénom de Jefferson et autres, si tu avais la bonne formule magique, tu réveillais en toi ce qui attendait comme ton potentiel. Et je me rappelle, ça va peut-être avoir un lien avec le voyage qui va suivre, il était aussi très imprégné de soufisme, et de Rumi notamment, et un des premiers textes qui ouvrait ce groupement, ça durait un an, avec des questions aussi fortes et vastes quand t'es ado, de si tu restais 2 jours sur la Terre, tu ferais quoi? Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Enfin, toute une succession de questions, un peu de dévoilement de ton noyau. Et le premier texte qui commençait, c'était « Oh ami un peu comme dans le spectacle de François. Genre, qui derrière tant de voiles t'appelle? Qu'est-ce que t'es venu faire sur la Terre, quoi? Quelle est ta marque secrète? Qu'est-ce que t'es venu faire? Et mon nom de princesse, après un certain temps, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'était, les premiers mots, c'était nomade au cœur de feu et prise de liberté. À travers l'art et les rencontres, je sème l'espoir. Et j'avais 14 ans.
Ah oui, c'est ça, j'allais tout poser. On t'a dit ça à 14 ans?
Ouais,
ça t'a guidé
ça
depuis
ans. Et en fait, c'est la chanson La Gitane que chante François à la fin de son spectacle. C'est ces mots, il y a nomade au cœur de feu et prise de liberté. Et du coup, ce terme de nomade, parce que j'ai une famille aussi qui est métissée, qui est mélangée, il y a beaucoup, beaucoup d'origines, de religions, de cultures dans ma famille. Ma grand-mère Geneviève, dont je vous parle, était ethnologue. Elle travaillait beaucoup chez les Dogons, en Afrique, notamment sur la parole du monde, sur la fécondité aussi du monde, sur les contes comme rite initiatique. Donc j'ai un rapport comme ça aux mots et à une culture vaste et à un rapport justement voyageur, parce que déjà dans mon sang, dans ma gueule, dans mon ADN, c'est mixé. C'est des gens qui ont traversé des mers, des pays, qui sont rencontrés, qui ont fait... Il y a des chocs, des cultures et des rencontres. Donc voilà, déjà, mon rapport au voyage, j'ai l'impression qu'il est dans ma chair. Parce que depuis que je suis enfant, on me dit, t'es de quelle origine? Tu viens d'où? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Mais j'ai avec cette tête-là, mais c'est quoi tes grands-parents? Donc, voilà, j'ai quelque chose, on m'a toujours envoyé, t'es d'ailleurs, tu viens d'où? C'est quoi cette voix? C'est quoi cette tête? Enfin, tu vois, j'ai eu ça très tôt.
Ce qui te dérangeait ou alors tu le vivais?
Non,
bien
je crois que ça m'intriguait parce que mon petit frère est blond. Mon frère, il a vraiment une tête de kabyle. Il est plus mat que moi. Ma soeur, on dirait une italienne. On a vraiment des gueules. Enfin, on sent que ça s'est bien mélangé. Et j'ai fait un test ADN il y a 3 ans parce que je voulais comprendre aussi justement d'où je venais. Et donc, ça m'a fascinée parce qu'il y a aussi bien des Iraniens que des Suédois. Donc, tu fais, c'est beau le chemin qui les a menés. Et des choses dont je sais même pas. Tu vois, voilà, il y a des gens qui ont marché, quoi. Il y a des gens qui ont marché. Et ça me touche. Aussi de ne pas tout savoir, mais de savoir qu'il y a des bouts du monde dans nos gueules, quoi. Et aussi le fait de s'appeler Estelle, qui veut dire étoile. Quand tu rentres en physique quantique, tu sais que tu es fait d'étoiles. Mais ce n'est pas poétique, en fait. C'est réel. Tu as des bouts d'étoiles dans le corps. Donc j'aime bien, on est tous plus ou moins des voyageurs, quoi. Peut-être de galaxies ou d'époque ou de temps ou... Voilà.
Et boum, on peut s'arrêter là, c'est parfait. Marie, alors
tu le quiz de Marie.
Marie fait un petit quiz, je ne sais pas ce qu'elle nous a prévu.
Ah, c'est très bien.
Mais un petit quiz, voilà, pour nous mettre dans l'ambiance et après on continuera notre beau voyage. Marie, qu'est-ce que tu nous as prévu?
Ouais, on change d'ambiance.
Comme filouterie là.
Évidemment, rencontre avec une illuminée. Donc ça va être un quiz un peu illumination, ésotérisme, spiritualité.
Parfait.
Sauf que.
Attention.
J'ai eu donc un week-end chargé en travail, donc je n'ai que 3 questions.
Ah oui, d'accord.
C'est très bien, le 3 c'est le chiffre du mystère, c'est ouvert.
Oh, merci Estelle.
Quelle positivité tout le temps là, j'adore.
On parle beaucoup du quartz rose. Est-ce que vous savez ce que c'est dans la lithothérapie?
Oui.
Je connais le sel rose de l'Himalaya.
Alors,
mais pas le quartz.
Le quartz, c'est de la... je pense qu'il ne faut pas en manger, puisque c'est vraiment
assez dense, ouais.
De la pierre, et ça va peut-être un peu casser les dents. Et donc voilà, on dit que c'est une pierre qui a certaines vertus. Alors pour moi, ça représente vraiment la lampe de Nature et Découverte, vous savez, qui s'allume et il y a de la pierre autour. Donc j'ai que ça en tête.
Ça roule.
Mais est-ce que vous savez dans quel pays se trouvent les plus grands gisements de quartz rose au monde?
Je dirais Asie, moi.
Quel pays d'Asie?
Quel pays d'Asie? T'aurais peut-être.
En Afghanistan, moi je dirais.
Afghanistan, je sais que c'est le lapis lazuli.
Ah voilà.
à fond, parce qu'on en a beaucoup dans les bijoux aussi, en Inde.
Le
quartz rose, j'irais Thaïlande, mais j'en sais rien. Laos, Thaïlande.
Okay. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de magasins de pierre quand je vais en Thaïlande. Non, j'y connais rien vraiment, je vais vraiment dire au pied, je vais me ridiculiser.
Eh bien, de toute manière, vous avez tort, c'est au Brésil.
Ah bah voilà, fin du quiz.
Et en 2, aux États-Unis. Et okay. En 3, attention, en France.
Incroyable.
Après, il y a des gisements de quartz rose dans plein d'endroits du monde. Là où il y en a le plus, c'est au Brésil, mais en troisième position, c'est en France.
D'accord. Okay. J'y connais rien en comment ?
Lithothérapie.
Mais c'est un truc un peu...
Non,
c'est la pierre du cœur.
C'est la pierre du cœur.
Ouais, c'est drôle parce que il y a un Indien qui m'a offert, après une rupture vénère, place de la Bastille. Le mec m'a offert un quartz rose, je connaissais ni Dave ni Adam, mais ça va te faire du bien. Je dis, ah ben, c'est adorable, je savais absolument pas.
Il te largue et il te dit ça ?
Non,
un inconnu.
Genre en mode extravoyant, je sais pas. Wow. Et du coup, j'ai découvert le quartz rose et c'est la pierre de la guérison du cœur. C'est de l'amour inconditionnel et les chakras ont des couleurs et c'est la couleur du cœur, le rose. Et Marie, un très très beau jogging quartz rose.
Ah bah ouais, moi je suis
très. Elle est couverte d'amour.
Moi je fous du rose partout. Mais d'ailleurs, laquelle de ses vertus le quartz rose ne possède pas, selon Internet. Hein, donc c'est
oui,
pas...
après, c'est pas scientifique, on est d'accord, hein, qu'on précise. J'ai vu des articles comme quoi c'est un peu. Il y a des gens qui se font arnaquer.
Oui, hein. Tu vas pas. Oui, c'est ça.
Attention, c'est... on va pas soigner tout avec les pierres.
Une fracture du crâne, vaut mieux aller à l'hôpital.
Voilà, ouais. C'est ça.
Je préfère.
Tu donc, peux compléter.
Selon Internet et les gens qui croient à la lithothérapie, laquelle de ses vertus le quartz rose ne posséderait pas ? Elle apporte l'amour et confiance en soi.
Oui.
Elle réduit les ulcères et l'hypertension.
Ah, ça, je sais pas.
Elle favorise l'endormissement.
Oui.
Elle aide à récupérer son ex.
Ah.
Et elle régénère la peau.
Tous les trucs, en effet, très concrets sur genre les ulcères et la peau, je sais pas. Par contre, l'amour, endormissement... Enfin, je sais pas, moi, je l'ai porté, ce quartz rose, dans mon soutien-gorge, je pense, pendant une bonne année. Et en tout cas, je sais pas à quel point les choses ont agi, mais ça m'a fait du bien. Le reste, je m'avancerai pas sur l'ulcère.
Moi, je me prononce pas sur l'ulcère. Je veux pas de procès, moi, derrière.
Putain, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Non, selon Internet, ça n'aide pas à récupérer son ex, même si c'est quand même vachement plus probable. Puisqu'on le rappelle, si vous avez des ulcères et de l'hypertension, allez chez le médecin.
Merci.
Et pas le quartz rose. Mais selon Internet, voilà.
Ah ouais.
Ouais. Okay. Écoute, il y a des gens qui ont des... Qui...
Oui, non, mais sans doute. Hein.
On va la couper, je sens cette question.
Moi, ça me fait peur. Je sais qu'il y a des articles qui disent attention et tout. Il y a des magazines de féminins qui disent oh, regardez le nouveau truc tendance et tout. Et il y a plein de gens qui achètent ça. Et c'est des entreprises qui vendent des petits bouts de pierre, machin. Mais on a fait le disclaimer de toute manière au début.
Oui, disclaimer.
Mais très bien.
Troisième question et dernière question. En 1973, un Français, Jean-Paul Blachère, invente un métier qui est utile une fois par an, notamment lors des périodes de Noël. Aujourd'hui, Blachère s'est implanté dans plus de 150 pays. Mais quel est ce métier ?
Père Noël ?
Non, c'est pas le Père Noël.
C'est
la
personne qui met l'étoile tout en haut à minuit ?
Alors, pas exactement.
Sur le sapin ? Non.
Mais c'est un rapport avec les décos.
Un boulier
notamment
de...
dans les villes. Qu'est-ce qui se passe à Noël ?
Les illuminations !
Oui.
Oh, joli !
C'est, donc voilà, il a inventé le métier d'illuminer les villes et les monuments.
La décoration de bâtiments et tout ça.
Et j'ai vu des photos de ouf. Et maintenant, donc c'est l'entreprise de ce mec, qui est maintenant, qui a des décennies et des décennies. Elle s'occupe de la Tour Eiffel, des illuminations de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, mais aussi Amsterdam, Moscou, Vienne, Londres, partout dans le monde, Rio aussi. Et j'ai vu plein de photos des illuminations de Noël dans le monde, et c'est trop trop beau. Voilà.
Excellent.
Voilà,
tu nous mettras ça sur Instagram, des petites photos.
Bon, je mettrai des photos sur
la période de Noël, parce que bon là, ça sera un peu chelou peut-être si on passe ça maintenant. Eh ben on a quand même appris plein de trucs.
Oui.
Ouais, et on va nous sauver du cancer grâce à toi, Marie. Merci.
Quartz rose illuminé.
Estelle, on va continuer nos voyages. Par où on commence ? Est-ce que t'as des souvenirs de voyages jeunes ? C'est quoi tes premiers
Je crois que c'est un voyage au Maroc.
Ouais.
Je crois que c'est avant de rentrer au CP. Parce qu'il y a une photo de moi avec une petite combinaison avec des petits zèbres, je crois, dessus. Et je crois que c'était un peu ma tenue préférée de l'époque. Et donc, je l'avais mise pour ma rentrée au CP. Donc, tu vois, ça doit être juste avant le CP. Et j'en ai un souvenir très fort. Je me rappelle La première chose, je dirais les couleurs, la lumière, l'odeur du mouton. Par exemple, je me rappelle ça très fort, genre dans des magasins de tapis où il y avait des peaux de mouton, l'odeur du cuir, la chaleur du soleil, les figues de Barbarie, le thé à la menthe, la beauté des femmes que je trouvais sublime, les bijoux. J'en ai une sensation assez sensuelle, comme de la peinture, quoi, tu vois, des images... du chaud, quoi, que c'est plus chaud, que tout est plus chaud, comme si le nuancier avait, on avait monté le volume, quoi. Et donc un rapport comme ça, éclaboussant de beauté, où enfin ça me correspond plus dans les teintes, dans les nuances, dans le rapport à même à la violence de la sensation. C'est moins terne, petit pastel qui me fait un peu plus chier, je crois.
Et t'as voulu retourner dans cet endroit ensuite, comme c'était ton premier souvenir.
Ouais, j'y suis allée beaucoup.
Généralement, ils sont marquants et.
J'y suis allée beaucoup. J'ai de la famille à Tiznit, à côté d'Agadir. Donc c'était la première fois que j'y allais, mais j'y suis retournée beaucoup au Maroc. C'est vraiment un pays de cœur.
Qu'est-ce que tu fais quand tu es là-bas ?
Là, on va mordre de plus en plus sur ce qui nous amène, c'est-à-dire sur le désert.
Bon, on y est là déjà.
On y est plus ou moins. J'y suis allée beaucoup. Je suis allée à Fès au Festival des Musiques Sacrées. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de confréries de Gnawa. La musique Gnawa, c'est une musique entre la rencontre de l'Afrique noire et le Maghreb. Et c'est une musique extraordinaire. C'est une musique qui fait travailler la transe, le cercle, une musique d'élévation. Et c'est mêlé aussi justement au soufisme, donc c'est des confréries d'hommes et de femmes, ou de femmes, qui chantent pendant des nuits entières. C'est absolument sublime. Et le Festival des Musiques Sacrées de Fès, c'est un endroit... Fès, c'est l'endroit où il y avait la première université, c'est un endroit d'érudition et de religion. Et t'as des gens du monde entier qui viennent chanter... l'extase, la divinité, c'est de toute beauté. Voilà, donc j'y suis allée là, je suis allée à Marrakech, je suis allée à Casa, j'ai pas mal cheminé au Maroc. Meknès, voilà.
Bon, déjà, moi je note, je connaissais pas. T'as déjà voyagé toute seule ?
Je voyage souvent toute seule.
Comment ça s'est passé la première fois ? C'était quand ?
La première fois... Je me rappelle en Tunisie, j'étais pas mal aussi en Tunisie. Je me rappelle en Tunisie, je venais pour le mariage d'une de mes grandes amies, qui est djerbienne, et on était avec son grand frère qui était vraiment décidé à être le plus grand chaperon du monde. Je pouvais pas faire 3 pas et demi sans que le frère soit là. Et en même temps, on allait en boîte, enfin, c'était en même temps très ouvert. Mais je me rappelle d'une fois, j'avais l'impression vraiment d'une escapade folle où tout le monde s'était endormi. Et j'étais sortie seule et j'avais un tel besoin de... Allez, là, il faut un tout petit peu me lâcher les basques. Et je me rappelle à Djerba, donc il était peut-être 1h du matin, je m'étais vraiment faufilée. J'avais l'impression d'être une petite voleuse comme ça de temps, de nuit. Et je me rappelle, sur la plage, il y avait des familles. C'est ça que j'adore aussi en Tunisie ou au Maghreb. C'est vraiment, tu as les familles, les bébés qui dorment, qui sont réveillés, qui sont déchaînés. Qui mangent, enfin, jusqu'à très tard dans la nuit. Et donc, j'étais au bord de la mer et je me suis baignée. Il faisait très chaud. Et je me rappelle, je me suis vraiment, genre, dans la nuit, donc personne ne te voyait, je me suis foutue vraiment à poil. Et je suis rentrée vraiment dans la mer. Et la mer était noire, donc il n'y avait pas de différence entre la mer et le ciel. Donc, juste, j'avançais dans du noir, dans de la nuit, avec des rires, des chants, des endroits de feu, enfin... Il y avait quelque chose de comme ça, complètement fou. Et puis après, ça a été le mariage. Et le mariage, c'était incroyable. C'était vraiment un mariage traditionnel djerbien. Ouais, les femmes djerbiennes, elles ont des bijoux extraordinaires qui descendent presque jusqu'au nombril. Ouais. Des espèces de pectoraux comme ça, où vraiment, il y a l'or entier. Et c'est des soirées entre femmes. Il y a une soirée entre femmes, il y a une soirée avec l'homme. Et puis du coup, de vivre à côté. Donc, elle s'appelle Wafa, cette amie. Vraiment, jour après jour, d'aller faire le henné, d'aller aussi... toutes les femmes de la famille l'ont lavé. C'est comme si le corps était honoré par tout le féminin dans la salle de bain avec des petits déchants complètement épilés. Je me rappelle, au sucre. J'en ai encore une sensation aussi bah, extraordinaire, quoi, de robe, de beauté, de où tu manges un œuf, enfin aussi sur la fécondité du monde, tu manges l'œuf qui est la fertilité, tu fais goûter du miel, je sais pas, c'est un rapport à la douceur, au lait, voilà, j'ai l'impression d'être dans les noces de Cana, tu sais, dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, enfin vraiment tu ouvres un imaginaire de pétales de rose et de chaleur et de peau douce et de henné où tu ne peux pas bouger parce qu'il faut que tous les dessins soient splendides. Enfin, c'est vraiment une préparation. Mmh. Et ces chants des femmes, c'est cette chaleur des femmes, ces baisers des femmes. Enfin, c'est vraiment une plongée dans le continent féminin, parce que j'étais du côté des femmes, où tu dors toutes les femmes ensemble, comme si tu prenais toute la force du féminin avant de rencontrer l'altérité et le masculin. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça très beau. Et donc voilà, j'ai ce petit souvenir de solitude, parce que comme cette petite échappée. Et ensuite, je suis partie, je pense qu'un de mes premiers voyages seul, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'était justement dans le désert pour mes 25 ans.
Ok. Pourquoi t'es partie là-bas?
Pourquoi je suis partie là-bas? En fait, mon grand frère a épousé une japonaise.
Ouais.
Apparemment, ça n'a rien à voir avec cette réponse. Et mon grand frère s'est marié à Tokyo. Il s'est marié dans un temple shintoïste, donc avec Mie, sa femme japonaise. Donc mon grand frère en kimono, ma belle-sœur en kimono, perruque, sublime, enfin la totale. Extraordinaire, enfin, on boit du saké assis, une cérémonie d'une complexité et d'une beauté. J'adore les mariages, ça j'adore. Dans toutes les cultures, je trouve ça fou.
Toi, tu vis tous les événements que moi je vois dans les films, toi tu vas les vivre, quoi. C'est incroyable.
Et dans ma famille, ouais. Et ce qui était fou, c'est que je répétais, enfin, du coup, les choses sont un petit peu emboîtées, comme l'utérus de ma grand-mère, comme vous avez compris. Je répétais, j'étais au Conservatoire National, comme François de Broer, que vous reverrez dans Rencontrer avec une éliminée. Et je travaillais avec un metteur en scène argentin. Donc je complexifie la carte du monde. Sur un spectacle de c'était un texte de Mishima, donc un auteur japonais. Donc je répétais un texte d'un auteur japonais. J'étais en troisième année du conservatoire et je suis partie 5 jours seulement, c'était mes 5 possibilités pour faire le mariage de mon grand frère au Japon. Donc je vais au Japon, à Tokyo, j'étais jamais allée au Japon de ma vie. Je me prends une patate absolue, je pense que j'avais 22 ou 23 là, à cette époque. Donc je suis complètement traumatisée de beauté, de ce Japon, de cette splendeur, de cette... Enfin voilà, c'est fou. Le dîner de mariage, il y a 60 000 petits plats avec des choses plus folles les unes que les autres. Voilà, j'en ai aussi une autre sensation de soierie, de, je sais pas, de cheveux, de ces grands cheveux noirs, je découvre toute la famille, de ce rituel, de cette façon de s'agenouiller, de respect, où on se touche pas, mais il y a quelque chose, je sais pas, qui... Un dessin, quoi. La moindre plaque d'égout, il y a des sakuras dessinés dessus, enfin, c'est la folie. Et je les quitte plus tôt, du coup, toute ma famille reste et je dois me barrer. Et je les quitte à l'aéroport avant de prendre le train qui m'emmène à l'aéroport. Et je les vois tous comme si, je sais pas, j'ai une sensation comme si, bizarre, je mourais et que je disais au revoir à ma famille. Enfin, que je les quittais, qu'il y avait une séparation.
Oula.
Sur cet endroit, c'est génial.
Je sentais que ça m'avait un peu pété, mais oh, j'ai failli me tuer. Ah ben, j'ai failli pas faire de petits-enfants, moi. Pardon. Oh la vache!
Ça va, mon chou?
Ouais! Ah, oh, j'ai eu trop peur, mais ça va! Ouais, mon siège a pété en fait. Attendez, bon, je sais pas, je couperai sans doute son nom.
Ça va, mon chou?
Ouais, mais j'ai vraiment failli m'embrocher les parties, quoi. Je suis vraiment désolé.
Mais non, y a pas de problème.
Oh, je suis tombé, quoi.
T'es tellement mignon! Ça va les couilles, pardon? Bah, pour cette question un peu frontale.
Non, mais c'est. Ça a frôlé, quoi. Mais j'ai vraiment eu ce truc de...
Non, franchement,
là, j'ai vu la vie de mes enfants disparaître d'un coup, quoi.
Alors qu'ils sont...
Pardon. Allez, on y retourne. Petit casque. Donc, c'était au moment où tu voyais disparaître ta famille, c'est ça? T'as vu comment j'ai suivi, hein?
À deux doigts de l'embranchement. Oui, je dis au revoir à cette famille et j'ai l'impression, je sais pas, que je les quitte d'une façon solennelle. Donc, je sais pas, je suis émue, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas, je vois toute ma famille qui me va au revoir, je sais pas, il y a un truc bizarre. Et bon, bref, je prends l'avion, je crois que j'avais jamais pris aussi l'avion pour le Japon, c'est quand même très long. Enfin, tu vois, c'est genre un petit 13 heures, je crois.
T'avais jamais pris l'avion de ta vie ou t'avais...
Non, j'avais jamais pris l'avion aussi loin,
aussi loin
toute seule, enfin, tu vois,
ouais.
Un petit 12-13.
Un petit vol direct en plus.
Je crois qu'un petit vol direct.
Bon, ça va quand même.
Ouais, ça va, mais quand même une sensation un peu émouvante. Et je sais pas, je m'endors pas, j'ai l'impression que je vois la lune par les hublots. Ça, je sais pas si c'est romancé ou si je m'en rappelle comme ça. Et donc, je suis dans l'avion et j'ai l'impression. Bon, tout ça, c'est de la sensation.
Oui.
Que les gens dorment et que je les veille. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout l'avion fait. J'ai l'impression que je suis la seule survivante. Bon, c'est très bizarre.
Non, c'est pas bizarre du tout.
Je suis comme ça, suspendue dans ce... Je viens de marier mon grand frère. Mon grand frère, c'est beaucoup pour moi. Je sais pas. Je suis dans cet avion. Voilà. Je m'endors. Et là, je fais un rêve. Putain, c'est vraiment rencontre avec une illuminée. Complètement barré. Enfin, un rêve...
C'est un rêve, t'as le droit. T'as
enfin, voilà, droit. C'est un rêve complètement fou. J'ai un rêve qui me dit... Enfin, il y a une phrase dans ce rêve qui me dit... qui me dit « N'aie pas peur d'aller jusqu'à la douleur de Dieu, de te fracasser contre le mur assourdissant du silence. » Donc je me réveille de ce rêve,
wow.
Légèrement choquée. Je suis là « C'est quoi cette phrase ?» Mais je suis un peu limite traumate.
Okay.
Donc j'écris la phrase, je suis un peu en mode palpite. Je me dis « Attends, c'est quoi cette phrase ?» Enfin, c'est quand même des phrases énormes. Et je me dis, mais c'est pas un texte que j'ai lu, c'est pas mes mots, c'est pas mon langage, enfin, je parlerai pas comme ça. Et je suis un peu, je suis un petit peu fébrile.
Mm-hmm.
Et j'arrive, et en même temps, je suis surexcitée, j'ai l'impression d'avoir vraiment été, genre, reçu un message divin, quoi.
Ah ouais.
Je suis vraiment, ok, c'est un truc de dingue. Et, ce que je vous ai pas dit, pardon, c'est que cette phrase m'est transmise par une femme que je connais. Qui s'appelle, pardon, vous rentrez vraiment dans ma vie, hein, Mani,
oui.
Et qui est la voisine du dessus de ma deuxième maman qui m'a élevée à l'adolescence quand je vous ai expliqué que c'était compliqué.
Qui était artiste.
Qui a été script de Mouchkine, par exemple, sur son Molière. Enfin, tu vois, qui a été actrice, qui a, voilà, une grande femme, tu vois, qui a eu des amants libres, une espèce de... Une femme libre qui m'a toujours impressionnée. Donc, c'était la voisine du dessus de cette deuxième maman qui me disait, voilà, Estelle, il faut que tu retiennes cette phrase. Donc, c'est Mani qui me transmet ce texte.
Dans le rêve.
Voilà. Et qui me dit cette phrase. Et je fais, ok, putain, bah, faut que j'appelle Mani assez rapidement, en fait.
Oui.
Donc, j'arrive à Paris. J'appelle Mani. Mani est sur répondeur. J'appelle Mani. Elle est sur répondeur. Je l'appelle deux jours. Elle est sur répondeur pendant deux jours. Je fais, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'appelle Carmen, cette deuxième maman. Vous saurez tout. Donc, la pote de cette femme. Et je lui fais, ok, Karma, j'essaie d'appeler Mani depuis deux jours. Elle est où? Enfin, j'arrive pas à la jambe. Elle me dit, elle est au Japon.
Wow.
Et là, je fais, oh putain, ok, ça se complique. Ou ça se précise. Donc là, je fais un message à Mani en disant, Mani, je rentre du Japon. Donc je me dis, est-ce que je l'ai croisé dans le ciel? Enfin, je sais pas, je me dis, c'est vraiment Barros. Je dis, Mani, faut qu'on se voit là. Il faut qu'on se voit. Elle vient manger avec moi un midi au conservatoire. Et je lui dis, voilà, Mani, j'ai ce rêve. Je fais quoi en fait? Il faut que tu me donnes des clés. Ce rêve, je dois en faire quelque chose, enfin, c'est pas possible. Elle me dit, ok. Et elle, vraiment, j'adore ce que, pas du tout, genre, oula, c'est vraiment, elle est vraiment, oui, d'accord. Elle me dit, donc, écoute, moi, le mur fracassant du silence, il y a deux choses pour moi qui me viennent.
Mm-hmm.
Deux expériences qui pourraient se rapprocher de ça. C'est une retraite vipassana.
Ah, ouais.
C'est une retraite silencieuse pendant 10 jours.
Ouais.
C'est dans un temple bouddhiste où tu t'amènes pas de livre, pas de portable. Et il en parle, Carrière, dans son dernier livre, Yoga.
Mm-hmm.
Il a fait ça. Et donc, c'est une retraite pendant 10 jours, donc silencieuse, avec un enseignement.
Médites, hein, voilà. C'est 10 heures de méditation aussi,
ouais,
je crois, par jour.
Donc, elle me dit, voilà, elle a fait ça.
Okay.
Et elle me dit, et sinon, la deuxième chose que j'ai faite, c'est d'aller dans le désert. Et j'ai été avec une association qui s'appelle Désert. Et voilà, c'est aller dans le désert où j'ai jamais rencontré une telle qualité de silence, de densité, de présence, où tu comprends que tous les monothéismes sont nés dans le désert. Enfin voilà, il y a un truc avec le silence assourdissant, le silence qui parle, quoi. Donc elle me dit ces deux trucs. Et puis on paye l'addition, voilà ce que je peux t'apporter. Faisant quelque chose, j'ai pas la réponse. Mais... Tu vois, moi j'espérais que ça soit une phrase. Mais je sais très bien de quoi il s'agit. Il tourne à droite et monte dans l'escalier.
Ouais, mais elle te propose déjà deux aventures, c'est trop bien.
Elle me donne déjà deux réponses énormes. Ouais. Donc là, je suis un peu OK. Donc je me rappelle, je m'inscris. Les trucs Vipassana, c'est limite un an de... Les trucs sont pleins.
Ouais.
C'est pas... Enfin voilà, c'est pris d'assaut.
Mm-hmm.
Et donc, je m'inscris, je me rappelle, sur liste d'attente et tout. Mais je suis un peu... Je me dis, bon, faut le faire, mais je suis un peu flippée quand même de la retraite de 10 jours. C'est silencieuse.
Tu t'étais inscrite en Inde quelque...
Non, non, c'est il y a en France. Il y a en France. Il y a des centres en France. Okay. Et je me rappelle... Enfin, voilà. Finalement, donc, je suis sur liste d'attente, ça ne s'ouvre pas, etc. Et donc, je vais faire la deuxième piste qui est...
Aller dans le désert.
Aller dans le désert. Et là, je me dis, bah, en fait, je pense que j'ai 24 ans à l'époque, je me dis, Bah, je vais y aller pour mes 25 ans. En fait, oh. Je vais aller fêter. Je suis dans une histoire qui bat totalement de l'aile. Je me dis, c'est le bout du scotch. Donc, il faut se casser et allons honorer cette phrase. Et du coup, je pars donc, avec cette association désert, dans le désert.
La même association que ta, ouais. ta voisine.
Donc, je pars dans le désert. Wow. Je pars dans le désert marocain. Je pars, je crois que c'est une semaine. J'ai mes 25 ans là-bas. Donc...
Avec que des gens que tu connaissais pas.
Avec que des gens que je connaissais pas. C'est quand même un peu, parce que je vais vous en parler d'un deuxième désert, j'y suis retournée après, 5 ans après, où je suis partie avec une autre association qui s'appelait l'Ami du Vent. Et là, c'était, on marchait silencieusement dans le désert et on parlait le soir. Et là, j'étais pour le nouvel an, pour un passage d'année.
Oh, trop bien.
Donc, il y a eu des étapes aussi dans ces déserts. La première fois, c'était un peu en mode quand même sac quechua. Donc, les gens parlaient un peu, oh, tu vois, ma dernière machine à laver. Enfin, tu vois, où t'es en plein milieu du désert, des fois, t'es là, on peut juste se taire et regarder où on est, s'il vous plaît. Ouais. Mais quand même, mes 25 ans, c'était fou. On était en tente dans ce premier truc. J'étais avec une militaire, son mec était en Afghanistan. Et donc, moi, je venais de me séparer avec cet homme. J'étais complètement au bout du rouleau, j'étais en t-shirt quechua tout le temps, mais j'avais pour mes 25 ans, je m'étais offert une trop belle robe rouge. Et le jour où je me suis réveillée de mes 25 ans, ils avaient marqué sur une dune, joyeux anniversaire Estelle. Mmh. On était avec des chameliers, ils m'ont fait faire un tour de chameau, ils m'ont offert du safran, tu vois, on était au milieu du désert, une bague, tu vois, ils m'ont fait des cadeaux, je trouvais ça complètement fou. Et le soir, donc, j'ai mis cette robe et j'ai dansé seule. Tous les gens étaient se coucher. J'ai dansé seule dans les dunes avec cette robe rouge. Je m'étais maquillée, enfin, je m'étais fait belle pour ce jour. Où, voilà, j'ai eu un 25 ans fort comme ça pour cet anniversaire. Et donc, je sais pas si ça.
Ça a répondu.
Je sais pas si ça a répondu, mais le truc un peu fou, c'est que cette militaire là, avec qui j'étais, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était une grande douleur. Donc on en a parlé, on s'épaulait chacune dans un endroit de blessure et on a marché voilà, beaucoup ensemble. Et ensuite, on ne s'est pas tellement revus, on s'est peut-être vus une ou deux fois, on a gardé contact. 5 ans après, je repars dans le désert, donc avec l'Ami du Vent.
Ou de l'association.
L'association, et donc là, avec cette retraite silencieuse, là, c'est en Tunisie. Et là du coup, je ne sais pas si c'est le fait de marcher dans le silence, il n'y a que des nanas de 60 ans. Okay. Donc j'arrive, j'ai 30 baloches, salut. Et donc, du coup, je suis un peu... Je sais pas, c'est étonnant d'être avec ces femmes. La guide, c'est une poétesse qui a perdu un enfant, qui est assez brute comme ça, mais en même temps, justement, comme une pierre de lave, quoi. Je sais pas comment dire, elle est dense, elle est. Tu sens qu'elle a souffert, mais elle a un cœur large, elle parle peu. On est avec des chameliers aussi, pareil, qui parlent peu. Et là, on n'est pas en tente, tu prends genre ton truc et tu te mets où tu veux. Donc, genre là, tu prends ton sac de couchage et tu t'installes sur une dune, quoi. Et donc là, t'es seule dans la nuit, dans le désert. Et je me rappelle la première nuit, là, je suis partie 10 jours, donc 10 jours silencieux. Tu pars 10 jours. La première nuit, je n'ai pas pu dormir. C'était la pleine lune. Et il y avait un chameau blanc. Et j'avais l'impression d'être dans un tableau du douanier Rousseau, quoi. Où, tu sais, vraiment, j'étais dans du blanc. La lune était trop forte. Et j'avais une sensation complètement d'irréalité. Et c'était beau, comme on ne pouvait pas parler, on se montrait tout. Tu vois, il y avait une copine qui voyait des chouettes partout. Donc, dans les pieds des chameaux, elle voyait des chouettes. On se montrait les trucs. Et dans le désert, c'est ça qui est fou, c'est que tout est lavé, quoi. Tu sais, il y a eu tellement de vent, de ça. Par exemple, justement, dans la religion musulmane, tu dois faire tes ablutions avant la prière. Et comme il n'y a pas d'eau, tu peux le faire avec le sable, tellement il est pur, tellement il est... Enfin, c'est de l'eau, quoi. Et je me rappelle ces premiers pas où, quand on a commencé à marcher, juste suivre le chameau, marcher, où tu as l'impression de marcher sur une femme. Tu comprends que la terre, c'est une femme. Tu vois que ses courbes, ses rondeurs, le moindre petit pas de scarabée, tu as l'impression que c'est une broderie sur le sable. Tu as le vent qui te parle. Enfin, c'est vrai que tu comprends qu'il y a Dieu partout. Quoi que tu mettes derrière ce mot, il y a du souffle, il y a de la présence. Et tu te laves, enfin, même toi, tu te laves, tu t'es pure. Même, je sais pas, dans nos métiers ou je sais pas, des fois, ou dans ta vie, des fois, tu peux avoir peur. Est-ce que je vais trouver ma place sur la terre? Mais là, tu vois l'étendue infinie. Tu vois que chacun a la place. Hein, je sais pas, il y a la place pour tous et toutes. Et pour vivre ta route, pour tracer ton chemin, il y a un secret, quoi. Il y a un secret dans le désert. Et je rentre de ce voyage. Bon, le premier message que j'ai en arrivant à l'aéroport, c'est clair. La femme du premier tour du désert qui est enceinte.
Oh.
Je me suis dit, c'est barge. Voilà.
J'adore. Ça me fait penser, t'as déjà fait un truc qui s'appelle le Temascal.
Oui.
Parce que quand tu parles de la terre qui est féminin, tout ça.
Ouais, j'étais au Mexique pas mal.
Tu peux nous raconter une expérience comme ça ? Moi, j'ai fait ça il y a pas longtemps. Et moi, je connaissais pas grand chose, mais j'ai suivi le mood et j'ai passé un bon moment où il fallait rentrer dans une tente. Et après, quand tu ressortais de la tente, eh ben, c'était un peu ta renaissance et tout. Mais voilà, c'est plus sympa si tu le racontes toi.
Bah, en fait, j'ai été au Mexique deux fois pour faire ce qu'on appelle la danse de la lune. Okay. La lune, ça me suit pas mal. C'est un rite chamanique, c'est un rite hyper ancien. Il y a la danse du soleil pour les hommes. C'est vraiment des choses, je pense, qui datent des époques mayas, etc. Où la lune, c'est l'astre qui est accordé à la femme depuis toujours dans l'inconscient, dans la symbolique. La lune ayant un cycle de 28 jours, comme la femme. Le moment où la lune culmine, donc la pleine lune, c'est le moment où la femme culmine également. C'est comme si c'était la puissance féminine qui était à son plus haut moment.
C'est pour ça que je dors pas, moi, les soirs de pleine lune.
Bah, tout ton féminin est réveillé.
Bah, voilà.
Et chante et veut danser. Et la danse de la lune, c'est fait par une grand-mère. Donc, en fait, voilà, moi, je fête les lunes depuis pas mal de temps avec beaucoup de femmes en mer indienne, donc à Paris, avec voilà, des femmes indiennes. De Colombie, du Mexique, etc. Et donc j'ai été emmenée avec, enfin j'ai suivi ces femmes faire donc cette danse de la lune pendant deux années consécutives. Et en fait, on danse pendant les quatre nuits de la pleine lune. Okay. Et on est à jeun, c'est, y a un jeûne, voilà, t'es à jeun. Et chaque nuit s'ouvre et se ferme par un témascal. Donc c'est la grande purification. Puis en plus c'est la façon aussi de bah, de se laver sur tous les plans. Et donc le témascal, symboliquement, en effet, ça représente l'utérus. C'est, en plus, ce qui est beau, c'est que donc, c'est une fête où il y a des milliers de femmes. Donc déjà, tu ne vois jamais autant de femmes, où vraiment le féminin est absolument à l'honneur. Les hommes sont là au service de la guérison de la femme. Enfin, de l'évolution et de la guérison de la femme.
C'est une tente, hein, c'est juste pour qu'on visualise un peu.
C'est une espèce de hutte, c'est comme une bulle en fait. Ouais. C'est comme une bulle que tu coupes en deux, c'est comme un sein. C'est comme si tu rentrais dans un sein. Et donc, c'est des choses que tu fais avec des branchages. Tu as une espèce d'arcade comme un corset. Et ensuite, il y a des bâches pour que ce soit complètement isolé. Tu as une espèce de petite entrée. Enfin, mais tout le Mexique est fait comme ça. Quand tu vas sur des sites sacrés où il y a des pyramides, par exemple, il y a la pyramide du soleil, donc il y a une grosse pyramide centrale. Et par exemple, il y a les pyramides de la lune, où il y en a 13, parce qu'on a 13 lunes, enfin 13 culminations. Les femmes, on a 13 fois nos règles, nos cycles. Il y a 13 cycles dans une année. Et donc, tu rentres comme dans un utérus symboliquement où tu as un vagin et puis ensuite un endroit où tu peux te loger. Mais pas forcément pour enfanter. Enfin, c'est ça qui est beau aussi dans les traditions chamaniques et ancestrales, c'est que l'utérus, c'est comme un espèce de chaudron alchimique de possibilités qui donne la vie sous toute forme, que tu enfantes ou que tu entretiennes la vie. Voilà, comme vous le faites là, vous entretenez la vie, parce que vous entretenez le récit de la vie, vous entretenez la connaissance, le lien entre les humains, le lien entre l'évolution de chacun. C'est une façon d'entretenir la vie, donc d'être mère.
La vie, c'est quelques accidents parfois, mais
on avance. Et s'en relever.
Et on s'en relève. Ouais.
Et donc le témascal, je me rappelle, donc c'est très chaud. C'est les hommes.
Il y a des pierres chaudes, voilà, à l'intérieur.
Voilà, les hommes du feu qui s'occupent du feu font chauffer des pierres dans le feu. Donc tu les fais rentrer dans la hutte. En plus, il y a tout un chant de tout, tu salues les pierres, ça revient au quartz rose. Comme c'était les grands-mères, t'as un chant qui salue les grands-mères.
Okay.
Parce que les pierres, c'est les choses les plus anciennes aussi sur la terre. Et donc, il y a un espèce de trou comme ça dans la terre.
Mais avant de rentrer dans la tente, moi, je me souviens, je me suis lavé dans le feu. Enfin,
t'as été purifié.
Bah, en fait, il fallait enlever tout ce qu'on avait. On était un peu en slip, quoi. Enfin, on était en maillot de bain,
ouais.
Un peu torse nu et tout. Et on devait jeter tous les trucs négatifs dans le feu, donc il fait ça, et après on rentrait dans la tente.
Ouais, voilà. Bah là nous t'es purifié avec des plantes.
Ah oui d'accord, ah oui les plantes c'était un pardon. Oui.
Ouais, je t'en prie, t'es purifié de haut en bas avec aussi la médecine du feu et des plantes, et ensuite ouais, tu rentres dans cette hutte, tu fais le tour de, voilà il y a des femmes tout autour, on est peut-être 40, tu vois, dans cette, et donc t'es à même la terre, et il y a un côté en effet où tu rentres presque comme un serpent, enfin tu t'es obligé de ramper un peu.
Ah oui, oui.
Et donc c'est aussi, il y a des femmes qui supportent pas notamment la chaleur. Et il y a des, des femmes qui tiennent ce Temazcal, qui disaient, mais en fait, on vient de cette chaleur dans le ventre, c'est cette chaleur. Donc en fait, vous avez les moyens de tenir cette chaleur. Mmh. Et c'est vrai que ça te fait bouger, cette chaleur, aussi t'es à jeun, enfin tu vois, dans cette... Ça te bouge, quoi. Il y a quelque chose, ça te fait, je sais pas, fondre des résistances, ça te modifie, quoi.
Ouais, moi je me souviens, je me concentre beaucoup. Il y avait trois ou quatre étapes dans plusieurs.
Oui, ils ramènent des pierres.
Ils des nouvelles pierres, exactement. Ils changeaient les plantes. Ils mettaient aussi des plantes. Il y avait une odeur différente à chaque fois.
Ouais.
Et à la fin, c'était chaud. Et donc, il y avait, au fur et à mesure, entre chaque pierre, il y a des gens qui sortaient un peu. Mais
c'est vrai que tu sors de là, comme quand tu fais un sauna, un fois 20 000, aussi dans un processus spirituel où tu le fais avec un... Ouais, comme si tu passais des portes et des écorces avec des modifications aussi de corps, bah, t'atteins d'autres choses. Et c'est beau aussi parce que tu vois dans les pierres, enfin je sais pas, je me rappelle cette première danse de la lune, j'ai pas ressenti ça la deuxième fois. Moi je voyais des animaux partout. Je sais pas, je voyais vraiment des animaux dans le feu, dans les braises, dans les étoiles, je sais pas, il y avait un rapport. Cet endroit du Temazcal, ouais, c'était quelque chose, quoi. En plus, avec la fatigue, il y avait vraiment quelque chose qui lâche, quoi. Tu lâches tes fonctionnements, il y a quelque chose qui cède.
Tu te fais des voyages parfois, genre mojito au bord de la plage?
C'est une bonne question, Marie. Franchement, je crois que ça me... Peut-être pas assez.
Ok.
Non, mais c'est vrai. Non mais c'est j'adore cette question. J'ai l'impression que
tu es inclusive de temps en temps, quoi.
Ouais, quand même. En même temps, tu dis ça, mais par exemple, j'étais encore cet été et c'était vraiment en mode.
On mange, on dort,
on fait de la, on se baigne et on fait des grosses siestes, quoi.
Mais il te manque un truc quand tu fais ça ou pas? T'as envie de t'enfuir et d'aller te baigner toute nue dans la mer toute seule sans.
Ouais, en fait, c'est vrai que quand c'est, je sais pas si c'est ma personnalité ou je sais pas, ce qui me rend heureux, c'est vrai que c'est quand j'ai l'impression d'aller à l'essentiel de choses où j'ai besoin de sens tout le temps. Mais des fois c'est chiant, hein, parce que des fois t'as envie d'être plus légère, enfin des fois j'aimerais être plus légère parce que j'adore travailler, j'adore me déployer, j'adore me rencontrer, j'ai l'impression que j'ai un rapport à un truc qui me pousse au cul de chercher quand même. Il y a toujours quelque chose qui m'appelle du sens profond des choses.
14 ans, après ce qu'on t'a dit à 14 ans, c'est obligé, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Tu vois, moi, à 14 ans, on me disait, tu veux plutôt un sac couleur rose ou couleur noire? Tu as le choix entre deux sacs et j'ai choisi un sac. Tu vois, c'était pas le même rapport à la vie.
Mais je pense que... Mais des fois, je me dis aussi, vas-y, allège-toi, apprends à t'alléger. Des fois, j'ai eu l'impression... Et en même temps, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Enfin, que c'est ce qui m'intéresse aussi. Je ne sais pas pourquoi.
Bah ouais.
Mais des fois, je suis là. Vas-y, allège, légèreté. Donc, des fois, je me fais des petites plages de légèreté.
Ah. Ah, mais alors, juste, elle fait la grimace quand elle parle de petites plages de
légèreté. Plage de légèreté.
Elle me regarde comme si elle venait de manger un truc pas bon. Hein.
Non, mais j'adore. C'est des bonnes questions, quoi. C'est des bonnes questions. J'avais vu... Putain, je vous saurais toute ma life. J'avais vu une astrologue qui m'avait dit... En regardant mon thème, je regarde Marie comme elle est bélier comme moi.
Bélier ascendant balance.
Attendez,
on est bélier ascendant balance.
Alors faites les malines là. Alors, si vous êtes vraiment au taquet là-dessus, devinez ce que je suis.
Je connais ta dernière ça, moi je sais.
Ah mais moi je dirais poisson, non?
Pas du tout. Ah, il paraît que t'as eu un délire avec un poisson. Tu cherchais un poisson dans quelque part. Ouais, j'ai une anecdote. Alors, j'ai parlé avec.
Attends, quoi ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
T'as parlé avec François ?
François, il me dit : ah, attends, j'ai une anecdote, je vais te filer un tuyau. Parle-lui du moment où elle a cherché un poisson, elle parlait aux gens et elle cherchait un poisson.
Ah, ok, je vois ce que c'est. Voilà. Ça, c'était quand j'étais au Japon, mon troisième voyage. On voulait aller avec mon amoureux au marché des poissons, qui est un énorme marché à Tokyo. Mmh. Et on ne savait pas où c'était. Donc on a pris un arrêt, on a pris le métro, on est descendu à l'endroit et évidemment personne parle anglais, il y a peu de gens qui parlent anglais. Moi je parle absolument pas japonais et donc on y a rien indiqué, tous les panneaux sont en japonais, je ne sais pas où est le marché des poissons. Et là il y a deux japonais qui parlent
Et j'ai dit, je vais leur demander. Et j'ai toqué sur l'épaule d'un japonais, déjà, ce qui ne se fait absolument pas, parce que la personne n'est pas une porte. Et puis, tu ne touches pas comme ça, donc je fais vraiment toc, toc, toc. Et donc, le gars fait... Et donc, je savais dire sumimasen, qui veut dire excusez-moi. Et donc, j'ai fait sumimasen, et là, j'ai mimé un poisson, j'ai fait...
Aïe, aïe, aïe.
Et là, ils étaient effrayés, effrayés, genre... Ils ont dû croire que je sais pas, je me foutais d'eux ou pas. Donc ça n'a rien donné. Ils ont fait. Ils se sont complètement cassés. Voilà l'anecdote.
Excellente anecdote.
On visualise bien.
Vous voyez assez bien la scène.
Est-ce que tu as trouvé ce marché aux poissons finalement?
Je ne l'ai malheureusement pas trouvé. Mon mime n'était pas assez convaincant.
Bon, prochaine fois. Apprendre le mot poisson en japonais.
The anguille, hors the dorade.
C'est compliqué. Mais t'as pas de problème pour communiquer.
Ça se passe bien.
Tu rencontrer les gens, parler avec des inconnus.
Ouais, j'adore.
En voyage, tu rencontres des gens.
C'est ça que j'aime beaucoup, en fait. Je crois que ce que j'adore dans le voyage, en fait, c'est le fait que tu puisses te réinventer. C'est que tu sois pas connu sous un angle ou sous une gueule ou sous une fonction. Tu peux déjà dire ce que tu veux de ta vie. T'es pas obligé de tout raconter. Il y a quelque chose, je trouve, qui se redéfinit comme si tu te reprogrammais. Ouais. Et j'aime bien cette façon de se réinventer. Souvent, par exemple, je redécouvre, ma fantaisie ou je sais pas comment dire. C'est comme si le regard d'un autre. Puis voilà, je suis actrice. Je suis quand même souvent dans un milieu d'acteur ou d'artiste, ce que j'adore, enfin, c'est le métier que j'ai choisi et je suis heureuse dans ce monde d'art, de sublimation, de beauté. Mais j'aime tellement aussi rencontrer des gens qui font tellement autre chose, qui ont un autre rapport au monde, qui se lèvent pas pour les mêmes choses, qui ont d'autres difficultés. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien cette virginité à l'autre où tu rencontres quelqu'un. Et puis d'autres cultures, évidemment, le grand bonheur, quoi.
Ça me parle beaucoup. À un moment, je passais à la télé et il y a plein de gens qui me reconnaissaient dans la rue. Et en fait, je leur envoyais une image qu'ils voyaient à la télé. Donc, je m'étais vraiment formaté dans un truc et j'étais tout le temps « Hey, Maxime Fun !» Et quand je suis parti en voyage tout seul, rencontrer des gens qui ne me connaissaient pas, j'ai fait « Ah, mais en fait, j'ai pas besoin de faire tout un pataquès à vouloir faire. »
C'est clair.
Et je me suis dit « Ah, vas-y, juste...
Tu peux être toi-même autrement.
Descends d'un cran et les gens, ils t'aiment bien quand même, tu vois.
Ouais.
Et j'avais remarqué ce truc-là.
Est-ce que vous avez déjà menti en sachant que vous n'allez peut-être jamais revoir ces personnes et de dire « Ouais, je suis sculptrice », alors que ce n'est pas vrai ? Genre vraiment s'inventer une vie.
J'ai jamais fait, mais je trouve que ça assez intéressant. Enfin, je trouverais ça chouette.
Moi, je crois que j'ai déjà fait le temps d'une soirée où j'avais la flemme.
Te raconter ta vraie vie pénible.
Mais en fait, moi, ça...
Même pour t'échapper de toi-même.
J'ai vraiment du mal, même avec mes amis et tout, à la question de qu'est-ce que tu fais en ce moment. En plus, quand on fait nos pénible. Métiers, ça change beaucoup. Oui. Donc du coup, tu dois tout le temps raconter des trucs. Alors que c'est vrai que si t'es expert comptable pendant 20 ans, t'es expert comptable pendant 20 ans, on te pose la question une fois et c'est fini. Et moi, ça me fatigue, cette question, elle me fatigue. Et en voyage, quand tu voyages seul, tu rencontres des gens tout le temps. Donc, il y a toujours tu t'appelles comment, t'as quel âge,
t'as c'est chiant de se répéter.
Et tu fais quel métier. Et bon, au bout d'un mois, dire tous les jours ce truc-là, ça me saoule, quoi. Et donc, je disais des petits mythos, soit des métiers qui intéressent personne.
Comme ça. On te fait pas chier.
C'est Alice Moitié qui disait, faut dire que t'es comptable. Si tu veux pas qu'on te pose des questions.
Ouais, je suis dans la comptabilité, dans les impôts. Tout, fait, oh merde.
Et là, on pose pas de questions derrière.
Ou alors, ils vont te demander. Mais alors, attends, moi, sur la fiche. 8%.
Justement, ça fait longtemps que j'espère. J'ai fait le chemin de Saint-Jacques aussi plusieurs fois toute seule.
Ah, wow.
Et j'ai rencontré, je me rappelle, dans les métiers fous, j'avais rencontré une femme qui travaillait dans les pompes funèbres. Donc j'étais là, c'est fascinant. Et en fait, elle s'occupait de la toilette des morts.
Ah, wow.
Et je trouvais ça hallucinant, quoi. Genre, tout son métier, c'est de s'occuper des morts, quoi. Et elle en parlait, mais vraiment comme une bonne mère de famille, quoi. Mmh. Ah, du coup, je sais pas comment dire, elle avait une espèce de tendresse, de simplicité, et ça m'avait vachement rendu simple le rapport au corps d'un mort. Mmh. J'avais l'impression que c'était... Enfin, tu sais, c'était une égyptienne qu'embaumait autrefois les pharaons. Enfin, en fait, elle m'en a rendu une espèce de poésie et de simplicité. Et je crois que peu de temps après, justement, j'ai perdu cette grand-mère Nouna. Et je me rappelle, j'avais une peine infinie. Et quand je l'ai vue morte, ça m'a apaisée. J'étais là, en fait, elle est juste là. C'est simple, je la reconnaissais. Et il y a un chagrin qui s'était... je lui avais écrit une lettre, j'avais marqué tout. Puis je l'avais glissé dans sa petite main. Et justement, comme... elle était ethnologue, elle a travaillé beaucoup toute sa vie avec notamment le symbole du kauri. Okay. Le kauri, c'est, vous voyez ce que c'est ?
Non, je vois pas du tout.
C'est un coquillage malien, enfin qui est beaucoup au Mali, blanc, qui représente le sexe de la femme, la fécondité du monde, etc. Et c'est un truc très important dans les contes, ou même c'est une monnaie d'échange. Et j'avais pété un collier de kauri, j'avais rempli ses mains de kauri, tu vois. Mmh. Et à chacun de la famille, j'avais donné un petit kauri pour qu'on soit du même collier. Et je sais pas, de la voir morte, je pense qu'elle m'avait préparé symboliquement cette femme. Mmh. À tout va bien, en fait, elle est là. Une espèce de tendresse et de, face à cette à la vulnérabilité d'un corps. Et en même temps, l'autre est là et plus tout à fait là. Mais je sais pas, il y avait quelque chose, elle me l'avait rendu simple.
Mmh. Trop bien. Et tu as fait du coup tu as fait le chemin de Saint-Jacques
toute seule
aussi,
ouais.
En entier.
Toi t'es rando, pourtant, spiritualité toute seule.
Ça marche,
c'est les trois.
Bah en fait au début je l'ai fait avec une pote, après mais en fait je trouve ça plus fort de le faire seule, parce qu'en fait déjà tu t'es dans une disponibilité qui est tellement autre. Mmh. Je trouve tu rencontres et puis ce que j'adore aussi c'est que le chemin de Saint-Jacques, bah je sais pas, les gens, ils viennent chercher un truc aussi. Donc, c'est tous à des moments de ouf. J'ai divorcé, j'ai perdu ma femme, je change de boulot, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, je fais un deuil, ou j'ai besoin de me guérir, ou j'ai perdu un enfant, ou juste j'ai besoin de souffler, ou je suis en burn-out. Fin. Et du coup, je sais pas, il y a une espèce de truc... justement, finalement, tout le monde s'en tape de qui t'es, mais juste de qui tu portes en toi, et de je sais pas, il y a une espèce de solidarité... où tu te partages des sandwichs, tu vas dans quelle étape, t'as des vieux trucs genre t'as une compile, là j'en ai plus, j'ai mes chaussures qui me lâchent, ou tu finis en tongs, je sais pas, de mélange de puits et des pieds et en même temps le sens de ta vie quoi, et un peu de saucisson et tu vas jusqu'au bout toi, je sais pas, et qu'est-ce que tu feras quand tu auras fini, et c'est quoi ton rapport à la divinité, ou moi les cathos j'en peux plus, enfin, et j'adore en fait, je trouve ça, puis tu croises des renards, t'es seul et t'es pas seul, et puis ce chemin qui est depuis le Moyen-Âge, enfin, je sais pas, je trouve ça fou en fait, espèce de camino, ouais, de chemin où bah, c'est le chemin de la vie. Enfin, juste, tu le vois réellement, mais c'est le chemin qu'on fait tous, visible ou invisible, de marcher, d'essayer de trouver des choses et de donner du sens à ton existence. Ça, j'aime vachement.
Trop bien.
On fera un petit tourista, on se pose à un endroit et on discute avec les gens qui marchent comme ça.
Ah, grave. Ah franchement, ça serait trop beau. Ouais.
Bon, ça prend un peu de temps, mais ce serait un bon délire. Hein.
Putain, ça serait trop beau.
C'est un bon délire, voilà, ah, ouais. Idée comme ça.
Je me rappelle, il y avait une meuf qui m'avait dit, je suis partie du Puy-en-Velay, et le Puy-en-Velay, t'as une messe à 6h du matin pour les pèlerins, et c'est trop beau, donc c'est une bénédiction, et qui dit que ce pèlerin trouve toujours un abri pour la pluie, contre la chaleur, qui trouve le but de son voyage. Enfin, tu sais, je trouve que c'est trop beau. Et tu peux poser une prière ou une intention.
Okay.
Et du coup, tu reçois toi-même une prière ou une intention de ceux qui sont partis la veille. Mmh. Et tu marches avec la prière d'un autre.
Wow.
Et moi, je me rappelle, j'avais la prière d'un enfant. C'était une petite écriture d'enfant. Et il me disait, genre, pour que papa ne meure pas. Et donc, tu as cette prière d'un petit. Wow. Et ben, je sais pas, tu marches pas pareil, quoi. Enfin, ouais. Sans t'alourdir, mais je sais pas, tu as un truc de... En fait, je crois que c'est ça qui me touche aussi, c'est d'universalité, de... Il n'y a pas de vie simple, que tout le monde se met en marche bravement, courageusement, cherchant à faire au mieux avec la fragilité de ton corps, parce que tu vois, c'est pas forcément des gros sportifs et tout, enfin, t'as des vieilles dames, t'as... Enfin, je sais pas, t'as des enfants, t'as des gens qui font des petites étapes, t'as des gens qui se découragent, et je me rappelle, la première auberge où on avait dormi, il y avait une meuf qui était là et qui nous avait dit « C'est beau parce que... Vous verrez d'un jour à l'autre, le premier soir, les gens vraiment lâchent leur premier bagage. Mmh. Et déjà, demain, ça sera autre chose. Mmh. C'est comme si tu venais encore de ta vie et plus tu avances, plus tu lâches des bagages, quoi.
Moi, j'en ai beaucoup parlé dans Tourista, mais assez brièvement, de Patmos, qui est une île en Grèce où moi, je vais depuis que je suis petite. Et je sais que tu y as été aussi. Et il n'y a personne dans Tourista qui a déjà été à Patmos. Du coup, je ne sais pas si toi, c'est un voyage qui t'a...
Ah ouais, c'est un voyage qui m'a trop marqué. En plus, on s'est baigné sur votre plage. Enfin, la plage qui est en dessous de votre maison, donc ouais, je vois très bien. Puis j'ai été dans la maison de Marie. Ouais. Et c'est vrai que Patmos... Bah, c'est l'Éden, quoi. Enfin, franchement, Patmos, c'est fou. En plus, il y avait la fête, je me rappelle aussi de l'Assomption, il y avait la fête de la Vierge.
Ouais, tous les 15 août.
Ouais.
C'est une grande île, c'est une petite île?
C'est une petite île. Pendant l'été, on est 15-20 000.
Superficie 34 km². Ok.
C'est pas énorme, 34 km.
Non. Là, tu rencontres des mecs qui s'appellent Dionysos, par exemple.
Dionysos.
Tu rencontres un vrai Dionysos. Donc, j'ai pas. Ta vie prend sens déjà. Enfin, en effet, tu comprends la mythologie, tu comprends qu'Aphrodite soit née dans cette mer-là. Tu comprends la beauté, quoi. C'est pareil, là, sur les lumières, sur la douceur des couchers de soleil, sur la bouffe sublime, sur une espèce d'abondance. Enfin, c'est vrai que tout le corps exulte, quoi. Dans la mer, dans la chair, dans ce que tu manges, dans ce que tu touches, dans la caresse de la chaleur sur ta peau, dans le bonheur de vivre l'été. Il y a pas plus paradisiaque dans la blancheur des maisons, dans la douceur d'y vivre, quoi.
Et Patmos, ça, en plus, c'est vraiment un... Parce que moi qui aime voyager, qui aime découvrir des trucs, c'est quand même un endroit où je suis allée très très souvent, quasi tous les étés. Et tous les ans, c'est la même chose, c'est j'arrive, je sens l'odeur de l'île. Genre, c'est Patmos, ça sent Patmos, quoi. Et tous mes potes, c'est pareil, on se fait le même... Enfin, c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas, qui habitent maintenant à 3 rues de chez moi à Paris, mais qui sont des amis que j'ai rencontrés en Grèce.
Ouais.
Et ça sent l'île. Et à chaque fois, quand quelqu'un part, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 10 jours, ça dépend, chacun vit sa vie, et va prendre le bateau dans la nuit, on pleure à chaque fois. Et alors qu'on a... Tu vois, moi, je vais avoir 27 ans, donc ça fait vraiment... Tout le temps, la même... on sait qu'on va revenir, quoi. C'est... Mais on est tout le temps émus. Et j'aime trop cette île, venez pas. Enfin, je plaisante.
Surtout.
Si, venez. Ça, ouais, venez. Je suis pas de l'équipe qui veut pas que les gens vivent du tourisme, donc il faut venir en Grèce. Voilà.
Eh ben merci, bah, ça me fait rajouter un truc sur ma bucket list, hein, parce que je peux aller à Patmos.
Mais oui, viens.
Et en parlant de bucket list, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu as déjà fait 1 milliard de choses dans ta vie. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore cochés, des expériences, des endroits que tu voudrais découvrir, des pays que tu ne connais pas?
Ouais, moi, c'est l'Inde et le Tibet.
L'Inde
et le Tibet. Pour mes 30 ans...
J'aurais pu deviner.
Ah ouais, franchement, mais ouais, l'Inde et le Tibet. Et toute l'Amérique latine. Retourner au Mexique. Le Mexique, ça m'a rendu dingue. Ouais. Toute l'Amérique latine. Le Chili. L'Amérique latine. Et j'aimerais bien aller au Mali aussi, une fois dans ma vie. J'aimerais beaucoup aller au Mali. J'étais en Côte d'Ivoire, mais voilà, j'aimerais bien... En Afrique de l'Ouest. Et le Rwanda, ça a l'air fou aussi. Le Rwanda, ça a l'air trop, trop, trop beau. Voilà, c'est ça les pays que j'aimerais faire.
Trop bien. Une expérience peut-être? Une dernière
Peut-être, ouais. Juste quand j'ai été dans le désert. Du coup, tu peux pas te laver pendant une semaine. Enfin, t'as des lingettes et tu te laves rapidos.
Ouais.
Et je me rappelle quand je suis rentrée à Tozeur, donc qui est la ville qui jouxte le désert.
Ouais.
J'étais au hammam. Et du coup, je vais souvent au hammam à Paris, mais j'avais jamais été...
Beaucoup de peau morte à la fin.
Oh putain, mais le hammam. Et là, en fait, il y avait une femme qui, je sais pas, s'est pris d'affection pour moi.
Ouais.
Donc tout le monde est vraiment nu. Et je me rappelle, donc après cette renaissance temps du désert, folie, enfin, j'ai l'impression de revenir de si loin. Elle m'a pris en main, elle m'a retourné sur ses cuisses, il y avait ses seins, elle me frottait. Et j'avais l'impression d'être une nouveau-née, quoi. Elle était vraiment. Sa peau, enfin j'avais l'impression d'être son petit enfant dans cette espèce de grande déesse mère qui finissait de m'accoucher. Et ouais, ça a été un souvenir de finir par ce peau à peau vitalisant, d'être frotté, massé, l'huile de rose, de corps de femme où t'es dans une semi-obscurité de peau, de cuivre, de sein, de ventre. Voilà, c'était le bouquet final.
Eh bien, merci beaucoup Estelle. J'ai pas envie de redescendre là. Franchement, c'était trop. Vraiment, je regarde, c'est juste que l'heure arrive, mais j'ai pas envie de redescendre. C'était un super voyage. Tu reviendras pour nous raconter le Mali et tout ça, tout ce
Promis.
Que tu veux. C'était incroyable. Merci Marie.
Merci à vous.
C'est grâce à d'avoir suggéré. C'était une trop bonne idée d'inviter Estelle.
Écoute, j'ai le pif.
T'as le pifos.
Merci Estelle, merci Maxime.
Eh bien, merci les touristos et touristas de nous mettre des petits commentaires 5 étoiles. On nous a appelé le POT là récemment sur Apple
Podcast.
Le podcast of all time, un truc comme ça, ouais.
Comme ça, ouais. Comme le GOAT.
Merci. On nous remercie, ça nous fait trop plaisir, ça nous touche beaucoup et ça nous fait grandir tous ces commentaires. Vous abonnez aussi à notre compte Instagram. Marie a fait plein de petites nouveautés là pour vous faire voyager avec les endroits dont on a parlé dans Tourista. Elle fait des
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Elle donne des bons conseils, des petites photos. Voilà, on vous donne l'actu. Tourista a un an.
Tourista a un an.
Tourista a un an.
Et bon anniversaire, Tourista.
Donc, voilà, et ça continue. Merci.
Trop joli. Et oui. Bon voyage à tous, à toutes. Beau vol.
Et voilà, bah, l'avion décolle là. Bon, c'est parti.
J'ai perdu une chaise, mais je suis trop content.
C'est vrai que t'as perdu.